I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Mon pinaise, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non !
Internet et leur demander de me
faxer
les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Game of Thrones, la série culte de HBO. Dans les précédents épisodes, on a parlé de l'univers du Trône de Fer et du phénomène Game of Thrones au-delà du petit écran. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ceux sans qui la série n'existerait pas. À mes côtés, pour nous partager toutes leurs anecdotes et leurs infos passionnantes, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Au programme aujourd'hui, une plongée donc dans les coulisses de la série. Impossible de commencer sans parler du papa de Game of Thrones, l'écrivain américain George R.R. Martin. George Raymond Richard Martin, pour son nom complet, est considéré par certains comme le Tolkien américain. Il a été sélectionné par le magazine Time comme l'une des personnes les plus influentes du monde en 2011. À l'époque, la série télé n'en est qu'à sa première saison, mais Martin, lui, est déjà un auteur à succès. Le premier volume de la saga du Trône de Fer, A Game of Thrones, est publié en 1996. Les tomes suivants sortent respectivement en 99, 2001, 2005 et 2011. Et sur les 5 volumes, 4 reçoivent le prix Locus du meilleur roman de fantasy. Avant que ses œuvres soient adaptées à la télévision, Martin s'était déjà frotté au petit écran. Dans les années 80, il travaille notamment comme scénariste pour les séries télévisées La Cinquième Dimension et La Belle et la Bête. Il revient finalement à l'écriture de science-fiction, jugeant son imagination restreinte par les limitations imposées par le format télévisé. Paradoxal, non ? Alors je vais m'arrêter là pour ne pas tout spoiler et laisser mes camarades reprendre le flambeau.
George Martin, c'est-à-dire que en fait il y a un point qui est éventuellement intéressant chez lui à noter, c'est que c'est quelqu'un qui a grandi finalement dans la pauvreté. Alors pas tout à fait la pauvreté, mais disons en fait que sa famille, c'est sa mère en fait avait un commerce en fait qu'elle a perdu pendant la Grande Dépression, qui était un commerce où elle avait beaucoup, qui était très florissant, qui avait beaucoup d'argent c'était un commerce en fait que lui pouvait voir en fait à chaque fois qu'il se baladait en fait quand il allait dans le quartier et qui lui rappelait, si tu veux, que sa famille avait un certain héritage qui a été dilapidé, quoi. Et j'aime bien cette anecdote, en fait je trouve que c'est un truc intéressant parce que ça explique certains attachements à certains personnages en fait dans Game of Thrones, et notamment je pense à Daenerys, quoi. Et finalement ça explique que c'est un auteur qui, malgré en fait son attachement à une littérature de genre, c'est-à-dire vraiment pure et dure, la nourrit de ses propres obsessions personnelles, quoi. Donc c'est en ça que je pense qu'on peut expliquer quelque part la maturation en fait d'une création comme Game of Thrones et le fait que les lecteurs s'en soient emparés en fait, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé avec Martin, c'est que c'est quelqu'un qui s'est plongé dans la littérature, l'écriture en fait très très jeune. Il a décidé en fait de d'en faire son métier principal, voire même je crois il a un petit peu enseigné.
Il
a été journaliste aussi. Et en fait, il s'est quand même lancé dans généralement des projets de commande aussi, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, quand on parlait de son, comment dire, son travail à la télévision, effectivement, il a déjà, lui, il a écrit beaucoup de romans, beaucoup de parutions, de choses comme ça et tout, que ce soit des petites nouvelles, que ce soit des écrits un peu plus longs. Et il avait effectivement ce problème de, à chaque fois qu'on lui demandait d'adapter ça éventuellement pour la télévision ou pour le cinéma, bah, il devait couper des morceaux entiers, en fait, de sous-intrigues, quoi, et ça le frustrait énormément. Mais il s'est quand même mis à travailler sur pas mal de projets, en fait, finalement, avortés, et c'est ce qui a nourri, en fait, en lui, l'idée d'écrire quelque chose sur lequel il va prendre le temps de le faire. Parce que c'est aussi ça, Game of Thrones, hein, c'est-à-dire que en gros, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 70 ans, il a commencé ça, il en avait à peu près 45, on va dire.
Ouais, 72
aujourd'hui. 72, ouais, on va dire qu'il a commencé à écrire ça à peu près à l'âge de 40 ans. C'est quelqu'un dont les fans, en fait, craignent les problèmes de santé, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui commence à être un petit peu âgé, et surtout, en fait, n'est pas forcément... en tout cas, il y a une vraie crainte autour de sa santé, le fait qu'il ne puisse jamais terminer sa grande œuvre, en fait. Et apparemment, c'est tellement quelque chose de personnel que aucune des personnes qui ont collaboré avec Martin, en fait, ne vont terminer. Si jamais il se passe quelque chose, si jamais il disparaît, en fait, Game of Thrones disparaît avec lui.
Il n'y aura pas de passage de flambeau.
Voilà, c'est ça. Et en fait, pas comme ça a pu arriver sur d'autres créations, quoi. Et du coup, en fait, c'est pour moi, en fait, c'est ce qui pointe du doigt le côté un peu, comment dire, finalement il y a une certaine justice poétique, on va dire, à l'idée que il donne tout ce qu'il a, en fait, dans lui pour créer cette chose-là, et que c'est cette chose-là, en fait, finalement, qui le rend aussi populaire aujourd'hui, quoi. Et ça vient de toutes les souffrances, en fait, toutes les frustrations qu'il a pu avoir au fil de sa carrière, en fait, à écrire des scénarios qui se feront pas, des épisodes de séries télé qui se feront pas, des pilotes avortés, des choses comme ça. Donc et d'ailleurs, en fait, dans la façon dont il, justement, il a finalement accepté que Game of Thrones soit adapté, il y avait tout un tas de conditions primordial, en fait, pour que ça se fasse dans les bonnes de la bonne manière, en fait, pour lui, quoi.
Alors ça, justement, on va en parler, hein. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que il s'est retrouvé sur ce projet de série télé, alors même qu'il avait dit que la télé, il voulait plus y toucher parce qu'on allait lui couper
En fait, ça c'est David Benioff, hein, qui a fait avancer le schmilblick, on va dire, parce que Benioff avant d'être scénariste est un écrivain. En fait, il est arrivé au cinéma en adaptant son propre livre La 25e heure, qui avait été réalisé à l'époque par Spike Lee. Mais en fait, dans les années au début des années 2000, après avoir écrit notamment le film Troy 3, dont je pense qu'il faut parler par rapport à Game of Thrones, parce que c'est quelque part presque une forme de répétition. Il était occupé à essayer d'avancer sur son nouvel ouvrage. Et comme on l'a dit dans des précédents épisodes, c'est un ancien rôliste, c'est un mec qui est habitué à lire de la littérature de fantasy. Et en fait, il avait lui-même commandé des épreuves des premiers volumes des livres de George Martin. Et il a convaincu son ami D.B. Weiss d'en faire une série. C'est-à-dire que tout leur goût épars, on va dire, c'est-à-dire leur intérêt d'une part pour l'heroic fantasy, pour les sagas, pour une certaine forme de littérature, on va dire shakespearienne quelque part. Enfin, tout ça était réuni dans ce récit, et la possibilité justement d'en tirer une série télé, puisque la chaîne HBO semblait le genre de chaîne à l'époque mûre pour ce genre de projet. Donc c'est lui qui a vraiment poussé le truc en contactant directement l'agent de Martin. Maintenant, comme on le sait, on en était à je sais plus quel volume.
Le cinquième est sorti en 2011. Donc les négociations ont commencé entre le quatrième et le cinquième.
C'est ça. Donc, puisqu'il a fallu, quatre ans. C'était en 2000. Je crois que c'est en 2006 que
2007.
2007 qu'ils ont lancé les négociations, donc c'est en 2006 qu'il avait pris sa décision et qu'il en avait parlé à D.B. Weiss, en fait.
Et donc, y avait une grosse difficulté qui était que la saga elle-même était loin d'être d'être conclue, et qu'il allait falloir écrire d'une certaine façon en prenant les bases, c'est-à-dire les personnages posés et les enjeux posés, mais ensuite en les développant pour un format de série télé. Donc d'emblée, dès qu'ils commencent, ils savent qu'ils vont pas aller dans la même direction que George Martin. Et ils ont pas non plus forcément les mêmes influences littéraires. On a parlé de l'influence littéraire revendiquée par Martin, c'est Maurice Druon et les Rois Maudits, qui à ma connaissance n'est pas le cas des deux scénaristes par exemple, qui eux se sentaient plus dans la mouvance, enfin dans l'héritage d'un Michael Moorcock. Moorcock, c'est le cycle d'Elric notamment.
Donc Weiss et Benioff avaient
Weiss et Benioff, ils ont leur idée. C'est-à-dire le récit les inspire, mais ils vont pas forcément rester sur les mêmes, on va dire, tonalités ou les mêmes ambitions spectaculaires. Sans compter que de toute façon, t'écris pas un bouquin comme tu écris une série. Les développements de personnages et de situations ne peuvent pas se faire de la même façon. Il y a un vrai travail d'adaptation. Et là, dans le cas de Game of Thrones, on est plus que dans l'adaptation. On est dans la quasi presque réécriture d'une certaine façon.
D'ailleurs, c'est quelque chose que les fans attendent. L'air inquiet au départ, en même temps très très impatient, hein, de se dire comment est-ce que cette saga va être retranscrite à l'écran.
Et les fans avaient toutes les raisons d'être très inquiets, de la même façon que les fans de fantasy étaient très inquiets lorsque le projet de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, était en cours de fabrication. Hein, Jackson, à l'époque, dès 99, devait s'en expliquer sur Internet auprès des fans, parce que les gens flippaient, en fait. On avait pris l'habitude à ce que les adaptations de fantasy à l'écran donnent généralement lieu à des catastrophes. Il y avait eu une exception notable en 82 avec le premier Conan le Barbare, écrit par Oliver Stone et réalisé par John Milius, donc des gens, on va dire, de poids, des sérieux, et surtout qui respectaient le matériel originel. Mais à côté de ça, on s'était bouffé des films d'heroic fantasy absolument aberrants, infantilisants. Et pour ce qui est de la télévision, on en était à Xena la guerrière. Donc on était loin quand même, hein, qui jouait finalement plus la carte de la parodie à la matinée vaguement de Ray Harryhausen cheap, quoi, on va dire. Bon,
c'était... Alors en même temps, ça laissait de la marge de progrès, hein, parce que avant même de réussir à séduire les fans de la saga littéraire, c'est d'abord la chaîne qu'il a fallu convaincre.
Tout à fait. Et en plus, ils étaient là pour le coup assez intimidés, parce qu'ils ont eu affaire donc à une nana qui s'appelle Caroline Strauss, qui à l'époque était en charge de beaucoup de des projets de prestige de la chaîne HBO, qui avait déjà un sacré panel, puisque donc c'est elle qui a greenlighté The Wire, donc sur écoute. Pardon, Les Sopranos, Six Feet Under, Curb Your Enthusiasm, Sex and the City, donc bon, ça va.
Elle avait du nez.
Voilà, mais on se doute qu'un personnage comme ça n'est pas forcément quelqu'un, tu ne te retrouves pas dans la même pièce qu'elle sans claquer des genoux, quoi, si tu veux. Et je crois que c'est David Benioff qui disait, c'est un hitman. Elle a un regard absolument fixe, elle ne sourit pas, il n'y a aucune expression sur son visage quand tu es en train de faire ton pitch, donc tu es vraiment livré à toi-même, tu te décomposes, voilà. Leur surprise, c'est que là où ils s'attendaient à ce que ça bloque, c'était plus sur le genre fantasy lui-même, et aussi sur le fait que un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal, allait clamser dès la première saison, et au contraire, c'est ça qu'a pris. C'est pas, parce que justement chez HBO à l'époque, on était déjà dans une dynamique de sortir des cadres de la télévision. Il fallait à tout prix que la chaîne se distingue de la concurrence. Donc elle avait tendance au contraire à encourager des projets où il y avait des choses comme ça choquantes, déstabilisantes, sachant que leur public n'était pas le public américain dans son ensemble, mais un public bien précis qui était les gens qui payaient pour justement avoir des programmes qui ne ressemblent pas aux autres. Et donc finalement, c'est pas tellement sur ce plan-là que ça a pu bloquer. Ce qui a pu bloquer, c'est peut-être la crainte d'avoir à développer un univers avec une quantité phénoménale de personnages, de lieux, de choses à retenir, en fait, et qui est le propre de la fantasy pour les gens qui sont pas habitués. C'est vrai que quand tu rentres dans un récit de fantasy, il faut que tu te familiarises avec plusieurs civilisations et des lieux méconnus.
D'où l'importance de la carte au début du générique, hein, dont on parlait dans le premier épisode. Et c'est déjà compliqué pour les fans de fantasy qui sont habitués à cet exercice. Pour le reste du public, on imagine que c'est encore plus, plus délicat. Et à juste titre, puisque pour ce que les auteurs en ont dit, le pilote qu'ils ont fait a été absolument catastrophique.
Ouais, ça fait partie des problématiques. Alors déjà, en fait, c'est une chance quelque part que HBO ait dit oui, parce que en fait, il n'y avait pas d'autres networks à l'époque qui pouvaient éventuellement déjà avoir les moyens, c'est-à-dire de donner vie en fait à cet univers, et surtout en fait avec le cocktail sexe et violence requis en fait, parce que il y avait quand même pas mal de gens qui tournaient autour de Game of Thrones à l'époque, et avec l'éventuelle volonté de les adapter en film. Et en fait, le film, faire un film en fait de Game of Thrones, c'est-à-dire vraiment ramasser déjà 2 ou 3 heures un bouquin, c'était inconcevable, avec un budget aussi monstrueux, et surtout en fait dans un studio, dans un gros studio de l'époque, ça signifiait que en gros on tablait en fait sur un film seulement interdit aux moins de 13 ans aux États-Unis, c'est-à-dire PG-13, donc extrêmement édulcoré en termes de violence et de sexe, et ça c'est un des trucs qui a aussi convaincu Martin en fait, c'est-à-dire que voilà. Et après, l'autre point peut-être à signaler, c'est que certes, le pilote en fait, alors c'est mal passé parce qu'il y a eu des problèmes de casting notamment, il y a eu des problèmes de musique, je crois, hein, on en avait parlé, oui. Ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour resituer vite fait quand même sur Benioff, parce que Benioff en fait c'est une chose, mais son binôme en fait, D.W. Weiss en fait, qui est pas forcément connu, parce qu'il a été connu avec Game of Thrones, ils avaient déjà collaboré ensemble pendant plusieurs années auparavant, notamment sur des projets en fait qui amenaient à des adaptations d'univers. C'est-à-dire que d'une certaine manière, D.B. Weiss n'est pas sur 3, si je dis pas de bêtises,
non.
Mais d'une certaine manière, il faut quand même adapter. C'est quand même l'adapter l'Iliade en fait.
Non, mais 3 c'était un exploit. Trois, c'est un film avec Brad Pitt, Orlando Bloom, qui d'autre, il y a beaucoup de monde. C'était une grosse production.
Peter O'Toole.
Assez mal réalisé en fait, enfin réalisé très très platement par Wolfgang Petersen, mais sur la base d'un script qui était incroyablement ingénieux, parce que c'est un script qui respectait à la fois le caractère on va dire naturaliste et réaliste du récit. Il en faisait un récit naturaliste et réaliste tout en respectant le caractère fantastique. Puisqu'il y a dans l'Iliade, en fait, il y a l'intervention des dieux, qui est un élément entre guillemets fantastique, mais qu'il avait réussi à rendre crédible. Bref. Et donc, on voyait déjà que dans l'écriture de Troyes, il avait réussi ce pari de faire, de ramener quelque chose de l'ordre de la pure fiction et de la pure de imaginaire à quelque chose qui pourrait nous être, de faire partie de notre histoire avec un grand H. Et d'une certaine façon, Game of Thrones est un peu de ça. On voit bien que finalement, les éléments fantastiques dans le scénario, là je parle vraiment du scénario de Game of Thrones, sont amenés avec une délicatesse qui prend en compte le public qui n'est pas habitué à ça. Le premier animal fantastique auquel on a droit, c'est le loup géant en fait, et on comprend pas tout de suite dans la scène que c'est un loup géant. On pense que
c'est un gros chien.
C'est un gros chien,
ah,
voilà.
Ouais. Ça revient à ce qu'on disait dans le premier épisode, finalement, cette entrée progressive dans le fantastique et ce réenchantement pour amener l'univers fantasy de manière vraiment douce.
C'est ça.
Pour un public novice.
Et pendant plusieurs épisodes, on peut rester sur l'idée que les œufs de dragon sont une pure fantaisie, justement, que les personnages délirent là-dessus, etc., avant que finalement, tout d'un coup, on les fasse éclore en un grand final du genre. Et là, tout d'un coup, le spectateur a eu le temps de se préparer et de franchir le pas.
Tout comme le personnage de la sorcière rouge, la prêtresse, qui au départ, il y a un doute qui plane sur le fait que est-ce que
elle a
de vrais pouvoirs, ou est-ce qu'elle n'est pas juste en train d'essayer d'enfumer tout le monde?
Tout à fait. Et ça, c'était c'est déjà des choses qui justement avaient été travaillées en littérature en fait, ce jeu entre une magie opérative bien réelle et le fait que peut-être les personnages qui le vivent se font des films en fait, de la même façon que un mystique au Moyen-Âge, on peut aujourd'hui le voir comme quelqu'un qui était juste allumé, quoi, ou au contraire comme quelqu'un qui voyait vraiment des saints descendre du ciel. Et ça, c'est assez, mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir bien bouffé de justement de cette littérature de fantasy qui est généralement assez méconnue de ceux qui n'en lisent pas.
Et justement, en fait, il y a donc dans leur binôme, en fait, il y a aussi cet intérêt pour la mythologie, en fait, très prononcé, parce que il y a donc on a parlé de Troie, mais en fait, il y a aussi à cette époque-là, ils étaient en train de développer pour Microsoft l'adaptation, en fait, en ce qui ne s'est pas faite hein, finalement, qui s'est d'ailleurs jamais faite de Halo, qui est un jeu vidéo, certains FPS bourrin, très inspiré de Aliens et ce genre de choses, quoi, mais qui en fait est de Starship Troopers, mais qui en fait pour le coup avait créé une vraie mythologie interne qui s'est déclinée en roman, qui s'est déclinée en choses comme ça, et en fait il y avait une espèce de logique de faire un espèce de space opéra, d'adapter ce space opéra là et d'en faire quelque chose d'assez grandiose et épique. Donc ils avaient disons des intérêts qui allaient dans ces directions là en fait.
Et dans la même veine d'ailleurs, Weiss travaille aussi sur une adaptation de la stratégie d'Ender.
Tout à fait.
Qui pour le coup s'est faite, alors pas avec lui je crois, mais qui s'est faite et qui a été un bide au début des années 2010, 2012, 13 par là, quelque chose comme ça, c'était avec Harrison Ford. Mais si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc en fait je pense que tout ça en fait amène quelque part, même si en fait il y a eu des ratés, c'est-à-dire pour démarrer vraiment, et puis ça a pris quand même 4 ans en fait à se mettre en place, même s'il y a eu des ratés, quelque part en fait c'était l'alliance idéal en fait pour essayer d'adapter ça, adapter quelque chose comme Game of Thrones en fait sur petit écran quoi. Mais après oui, le c'est vrai que la problématique de ce pilote là, c'est que je crois que si je dis pas de bêtises, ils ont dû changer le casting en fait de notamment Kathleen Stark, qui était une autre actrice qui interprétait le rôle, et ils ont dû changer ça. Il y avait des problèmes de tonalité, et en fait ils ont
de costumes,
ils ont fait tester ça en fait auprès de leurs des gens avec lesquels ils étaient habitués à travailler, et je crois que le pilote a été reshooté à 90%.
D'après eux, il a été modifié modifié à 90% en fait. Ils ont fait une projection test avec des amis scénaristes qui sont Greg Mazin, Ted Griffin et Scott Frank, qui d'ailleurs Greg Mazin et Ted Griffin ont un podcast pour les anglicistes dans lequel ils ont invité notamment Benioff et Weiss, hein, c'est des copains. Et Greg Mazin, à la fin de la projection, leur a dit « Les gars, vous avez un gros problème. » Et en fait, d'après Weiss, dès le départ, ils ont considéré que que tout était de leur faute. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits comme souvent les scénaristes, en mode « Vous ne comprenez pas », etc. Parce que HBO était presque prêt à les défendre. À dire « Ils ont pris cette direction-là, on va essayer de la faire marcher », et tout ça. Et ouais, ça dit « Non, ça ne marche pas. » Donc, on a fauté, il faut qu'on reprenne presque, entre guillemets, à zéro, quoi. Mais la réécriture, de ce que j'ai compris, elle s'est faite aussi beaucoup par du montage. Donc il a été modifié à 90%, mais c'est pas 90% de reshoot, quoi. Ça aurait coûté beaucoup trop cher.
Mais alors justement, tu fais très bien de parler du budget maintenant, puisque j'allais y arriver. Alors je ne sais pas si c'est juste la réécriture qui a coûté autant, mais en tout cas le pilote à lui seul a coûté près de 10 millions de dollars. Game of Thrones, petit écran mais gros, très très gros budget. On a environ 100 millions de dollars investis en moyenne par saison. HBO n'a clairement pas lésiné sur les moyens. Pour la dernière saison, le budget alloué aux producteurs pour chaque épisode est de 15 millions de dollars, 90 millions pour 6 épisodes seulement, un budget vraiment très impressionnant. Et pour cause, entre les effets spéciaux, les aléas du décor naturel, puisqu'il y a toute une partie qui est tournée en décor naturel, et le cachet des acteurs qui dépasse le million pour les 5 acteurs principaux, les compteurs s'affolent. Et en plus, les épisodes de la toute dernière saison sont plus longs, 1h20 pour les 3 derniers, on est presque au niveau de certains longs métrages. Et en même temps,
et de longs métrages qui eux pour le coup coûtent chacun 100 millions de dollars, hein, parce que l'air de rien, ça reste des budgets extrêmement étroits par rapport à ce qu'on a à l'écran.
Et surtout, l'investissement est rentable. D'après le New York Times, la franchise rapporte 1 milliard de dollars par an à HBO. Il y a de quoi faire.
Ouais. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer le boulot délirant que les équipes ont fourni pour pouvoir obtenir ce résultat-là, avec je sais que ça fait bizarre de dire comme ça, avec aussi peu d'argent. Parce que c'est 15 millions, c'est aux États-Unis, c'est le prix d'un, j'allais dire, d'un film d'auteur, quoi. Enfin, c'est d'un truc qui passe à Sundance, quoi, si tu veux.
Plus maintenant,
mais avec 15 millions, t'as pas des armées, des armées de morts qui déboulent sur qui défoncent un mur avec un dragon, si tu veux. Donc, c'est quand même assez magique qu'ils aient réussi à...
Après, il y a des limites, enfin, j'ai envie de dire, mais là, on sort peut-être un petit peu du sujet des showrunners et de Martin, mais en fait j'ai envie de dire il y a des moments où on sent quand même aussi les limites en fait, alors pas tant en termes de c'est-à-dire que si tu revois des par exemple l'évolution du budget dans la série, oui alors les dragons si tu veux au début c'était pas vraiment enfin c'était pas aussi réussi qu'à la fin et c'est pas que un problème de design, c'est aussi un problème de fabrication quoi, et en fait l'autre point que je dirais c'est que bah suivant en fait les scènes de bataille, ça dépend des moments. Moi, je trouve que, par exemple, si tu veux, dans la dernière saison, ils ont beau avoir tout ce budget-là, et c'est peu, effectivement, pour ce que t'es censé voir à l'écran, bah, ça implique, en fait, aussi un planning de travail très serré. Et du coup, en fait, des batailles qui sont pas forcément, et qui peuvent être très spectaculaires pour une série télé, mais qui n'ont pas, je pense, la qualité de mise en scène forcément qu'on peut retrouver dans un, je sais pas, le Seigneur des Anneaux ou ce genre de choses,
ou un 13e guerrier puisque c'est cité ouvertement, cité ouvertement lors d'une bataille lorsqu'ils sont dans l'espèce de fossé, tous coincés dans un fossé, là, je sais plus comment ça s'appelle.
Saison 6 ou saison 7, je sais plus, mais c'est vrai que ça se terminait avec des tonalités dans la boue, etc., etc., des géants qui se font massacrer à coups de flèche et tout ça, et c'est vraiment, tu vois clairement que leur référence, c'est le 13e guerrier de John McTiernan, mais pas que, en fait, c'est-à-dire que, en gros, moi je pensais par exemple à la bataille de l'épisode 3 de la dernière saison. On va parler de la dernière saison dans le prochain épisode, mais c'est vrai que cette bataille, en fait, elle a posé pas mal de problèmes à certaines personnes parce qu'elle était assez sous-éclairée. C'était volontairement le cas, mais est-ce que c'était volontairement le cas justement parce que à un moment donné, en fait, il faut tourner au kilomètre, avancer. On peut pas faire les séquences tout le temps, en fait, comme ça se passe au cinéma. Ou est-ce que c'est parce que je pense qu'en fait, disons que le choix artistique, il est aussi lié à la problématique de budget.
Alors, j'ai cru voir les showrunners, ou en tout cas la chaîne, présenter ses excuses en disant qu'effectivement, ils ont eu vraiment des problèmes de luminosité sur cet épisode-là. C'est le fameux épisode de la bataille qui oppose les marcheurs blancs au reste des troupes.
Mm-hmm. À Westeros.
Effectivement, tout l'épisode se déroule dans une obscurité où même avec les contrastes réglés à fond sur son écran, on voit pas grand chose.
Mais du coup, voilà, je pense qu'en fait, on voit ces limitations-là, même s'il faut quand même reconnaître qu'effectivement, ils s'en sortent en général, haut la main, vu les budgets et surtout, suivant les standards, en fait, des séries télé. Par exemple, pour prendre un exemple aussi, pour le coup plus concret, Rome. Enfin, moi, je me rappelle que j'avais des très grosses frustrations sur Rome, même si c'était 10 ans auparavant, parce qu'il y avait finalement des batailles qui étaient réglées en une ellipse, quoi. Enfin, pour un budget aussi énorme, c'était un peu, comment dire, dommage, quoi.
Oui, non. Là, moi, en tant que fan de films de fantasy, j'ai été régulièrement, ramené à la série par son ampleur cinégénique, en fait. C'est pas, même si c'est pas, encore une fois, on n'est pas au niveau d'un McTiernan ou même d'un Peter Jackson, il y a un effort de déployer qui est incroyablement appréciable, pas seulement en termes de mise en scène, mais même aussi, je trouve, en termes de direction artistique, photo, etc., quoi, qui est après, de toute façon, les films ont été conçus, enfin, les équipes qui ont bossé dessus, ils ont bossé comme si, pour eux, ils étaient en train de bosser sur un film, hein. Il faut voir les making-of, etc. Enfin, il y a un vrai travail d'investissement de chaque département. Le travail sur les costumes, il est fabuleux dans Game of Thrones, parce que personne ne les met jamais en cause, en question. Alors, apparemment, c'était un gros problème sur le pilote qu'on ne verra jamais. Donc, ils ont corrigé le tir. Mais d'avoir rendu tout ça, tous ces décors et ces costumes naturels à l'œil, c'est un exploit aussi. Donc, moi je sais qu'il y a un épisode qui est réalisé par le gars qui a fait The Descent,
Neil Marshall,
dont je suis pas un gros fan. Donc c'est la première attaque du mur, des marcheurs blancs sur le mur. Donc c'est un épisode entier de bataille avec des plans séquences, etc. Je suis vraiment en train de regarder une série télé, enfin quand même, c'est
me souviens de cet épisode, et pourtant les épisodes avec les combats, c'est pas ce qui me passionne le plus, et j'étais resté scotché devant. parce que la réalisation est incroyable.
Parce que ça avait une dynamique qu'on était habitué à ne voir qu'au cinéma, en fait.
Après, il y a aussi une qualité d'écriture, mine de rien, dans ces épisodes-là. C'est-à-dire que, en gros, et peut-être c'est ce qui manque dans l'épisode 3 de la saison 8, là-dessus, à mon avis, c'est-à-dire que, en fait, en gros, il y a une qualité d'écriture dans la façon de gérer ce que chaque faction de personnages, en fait, et ce qu'ils vont faire dans la bataille et comment ils vont faire quelque chose. En fait, il y a une écriture dans l'action, en fait, si tu veux. Et c'est ça qui est plutôt aussi réussi. J'aimerais préciser peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit sur Game of Thrones et qui me semble quand même assez important, et parce que c'est assez rare pour être souligné, Martin lui-même a participé à l'écriture en fait de la série, c'est-à-dire à l'adaptation de certains de ces voilà, et c'est assez intéressant à souligner, parce que déjà c'est pas fréquent, hein, tout bêtement en fait, d'avoir l'auteur des romans en fait s'adapter son propre travail pour la télé. Ensuite, parce que mine de rien, il a quand même une expérience dans la télé. Martin dans les années 80 en l'occurrence, hein, dans cette adaptation de La Belle et la Bête avec Ron Perlman et Linda Hamilton. Et du coup, en fait, c'est intéressant en fait de se dire que lui-même qui était frustré là-dedans, en fait, finalement, il arrive là aussi à trouver une forme. Alors, je crois qu'il a écrit un épisode par saison, il me semble, hein. Il a adapté un épisode par saison, je crois que c'est ça. Mais voilà, c'est aussi un gage même si on prend des voies détournées pour parler enfin pour adapter son travail à lui, il est là aussi pour chapeauter tout ça. C'est-à-dire, c'est un vrai travail de confiance entre les trois, enfin entre les deux showrunners et lui-même, quoi.
Alors, il faut pas, pour en revenir sur la question du budget, ils ont quand même été sérieusement limités, surtout sur les premières saisons. Je parle des scénaristes, ils ont quand même dû couper beaucoup de choses qu'ils avaient l'intention de faire et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire. Quand on leur a fait constater plus tard que leur série était la plus téléchargée au monde, en leur demandant qu'est-ce qu'ils ressentaient, ils disaient, ben, d'un côté, on est flatté d'être la série la plus téléchargée, et puis de l'autre, on se dit qu'à 99 scènes par téléchargement, on aurait pu la faire notre scène de bataille qu'on n'a pas pu faire dans tel épisode. Donc il y a ça. Et du coup, comme parfois ils étaient très limités sur le plan budgétaire, ils ont dû se rabattre pour que les épisodes puissent faire une heure sur des scènes qui n'étaient pas prévues. Et ils ont tendance à considérer que ces scènes de dernière minute, qui sont généralement des scènes de huis clos entre les personnages, sont leurs préférées. Sont devenus leurs préférés. C'est souvent des scènes qui n'apportent rien à l'intrigue, mais qui creusent un peu plus la psychologie. Je crois qu'il citait comme exemple la scène où Robert Baratheon et Jaime Lannister se parlent. Ils se parlent qu'une fois dans la série, et c'est autour de le premier mort, la première fois qu'ils ont tué quelqu'un en fait, le first kill, qui était un truc qui n'était pas du tout prévu en fait au départ. Parce qu'entre temps, ils ont l'interprétation des comédiens leur a donné des pistes sur comment écrire ces personnages et comment les développer. Et donc, du coup, ils se retrouvent à être en mesure de faire des scènes sorties de nulle part qui ont une vraie texture. Cersei Lannister qui fait boire Sansa, qui lui fait boire du vin pour la saouler et lui expliquer les vertus de l'ébriété. Enfin, donc, voilà. Et ça, c'est d'une certaine façon, ils auraient peut-être pas fait ces scènes-là s'ils avaient eu les moyens d'emblée de leurs ambitions.
Et oui, des contraintes naît la créativité. On parlait du budget de la série, mais la série, en retour, a créé des rentrées d'argent importantes sur les lieux où les tournages se sont déroulés, hein, puisque elle a dopé le tourisme partout où elle est passée, que ça soit en Irlande du Nord, en Islande, dans des villes espagnoles comme Osuna ou Gérone. La fréquentation a explosé dans le sillage du tournage. Évidemment, face au succès de la série, des petits malins ont commencé à proposer au public des circuits touristiques dédiés. Tout en haut du podium, on retrouve Dubrovnik en Croatie. C'est là-bas que sont tournées les scènes de Port-Réal, King's Landing, la capitale fictive de Westeros. Dubrovnik qui a donc carrément dû imposer un plafond de visiteurs face à l'afflux lié à la série.
Et pour cause, parce que c'est peut-être un des lieux les moins retravaillés en post-prod. Parce que là aussi, une série comme Game of Thrones n'a pu exister en l'état que parce que les technologies de son époque lui permettaient. C'est une série qui est vraiment faite sur le modèle du compositing, c'est-à-dire que c'est des morceaux de choses qui sont collés à l'image pour donner un ensemble cohérent. C'est des choses qui ont été testées justement sur le Seigneur des Anneaux, etc. Un mélange de maquettes, mélange de figuration, mélange de écran bleu et décors réels. Enfin, tout ça, et voilà. Mais sur le cas de Dubrovnik, finalement, il y a des endroits de Dubrovnik où finalement ils n'avaient rien à toucher. C'est tel quel, c'est une ville qui existe depuis, 14e ou 15e siècle, donc il n'y a pas besoin de vraiment changer grand-chose.
Et tu parles de compositing, alors sache que pour la créa sonore, ils ont fait une forme de compositing aussi, ils ont impliqué les fans pour la création du cri du dragon de glace qui apparaît à la fin de la série. Ça a été enregistré avec les cris de fans alcoolisés qui étaient rassemblés dans un bar de Chicago. Ils ont été enregistrés alors qu'ils hurlaient comme s'ils étaient torturés. Le son a été mixé et c'est devenu le cri du dragon. Donc là aussi, à nouveau de la créativité, une bonne façon d'impliquer les fans de la série,
oui,
aussi.
Je crois qu'il y a un couple de fans qui sont carrément devenus leurs relecteurs, Weiss et Benioff, parce qu'ils étaient tellement familiers de l'univers de Westeros. Ils avaient lu évidemment tous les bouquins de Martin, ils regardaient la série plusieurs fois chaque épisode, etc. Et donc ils étaient absolument incollables sur tous les petits détails à la noix qu'un scénariste peut laisser passer, que tel personnage n'est pas censé être à cet endroit-là, à ce moment-là, etc. Donc finalement, oui, pourquoi ne pas utiliser cette force de travail bien fait, on va dire.
Très bien vu. Sans transition, on en avait parlé dans l'épisode 1 de ce podcast, toutes les musiques de la série sont composées par Ramin Djawadi. Il avait expliqué que face au nombre important de personnages dès le début de la série, il avait dévoilé les thèmes de chacun des protagonistes au fur et à mesure, le temps que les spectateurs intègrent qui était qui. Alors on va voir si vous connaissez vos classiques. Je vous ai préparé un petit quiz sur le thème musical de plusieurs des maisons de la série. On va voir pour le premier. Oh, elle est pas si compliquée quand même.
Bah, moi j'allais dire Winterfell, mais non, non. Voilà, je te vois me faire non, alors non, c'est bon.
Ah, moi, je suis vraiment pas fan de la musique de Ramin Djawadi.
Essaye, Rafik, quand même. Ouais,
alors, je peux vous donner un petit indice avec peut-être la devise de cette maison, qui est « Je rugis ».
C'est pas les Lannister, quand même, aussi ?
Si, c'est les Lannister.
Ok.
Leur devise officielle est « Je rugis ». On connaît beaucoup mieux la phrase hein, « Lannister paye toujours,
oui,
toujours
ça,
ses dettes
oui. ».
Mais la devise officielle, c'est « Je rugis ». On va voir si avec la deuxième maison, vous avez un petit peu plus de chance.
Targaryen ?
Non. Toujours pas, je vous vois qui fait de nom de la tête tous les deux.
C'est pas les Targaryens, ça, non ?
Si, c'est les Targaryens, mais tu vois que tu sais.
J'ai hésité entre les Greyjoy et les Targaryens.
C'est les Targaryens, effectivement, avec ces voix du peuple qui commencent à s'élever. La devise des Targaryens qui est...
Je suis nazi, je sais pas.
qui est feu et sang.
Feu et sang, ok.
Feu et sang.
Bah oui, qui d'ailleurs donne son titre à la saga.
Absolument, qui donne, oui, au livre suivant dont on parlera dans le prochain épisode, justement. Troisième extrait, Stéphane, est-ce que sur celui-ci, tu vas réussir à rattraper Rafik ?
Je te dis non maintenant, mais...
Une petite idée, voilà, par élimination.
Bah ouais, j'allais dire Winterfell du coup, mais en fait...
Bravo,
ouais,
mais ouais. Oui. Alors, non, Winterfell, mais... c'est le nom du château, mais comment s'appelle la famille ?
Ah, les Stark.
C'est ça, ouais. C'est les Stark.
Et leur slogan, les Stark, c'est...
C'est l'hiver vient.
Oui, bah
Winter
oui,
is coming. Eh oui, oui. C'est ça, il y a bien un slogan dont on doit se souvenir.
On est complètement largués en fait.
Bon, alors du coup, pour la dernière, franchement, si vous la trouvez... Bravo.
Je
elle est un peu plus compliquée, je vous l'accorde.
C'est le peuple des poulpes, non?
Le comment peuple des poulpes.
Comment ils s'appellent les pêcheurs, là? Ceux qui sont sur leurs îles.
Ouais, tu l'as dit tout à l'heure.
Les Greyjoy.
C'est la maison Greyjoy, exactement, dont le slogan, dont la devise est « Nous ne semons pas », mais qui eux aussi sont plus connus pour une autre phrase qui est « Ce qui est mort ne saurait mourir ».
C'est ça, ce qui est mort ne saurait mourir. Mais c'est, leur emblème, c'est pas un poulpe, justement?
C'est l'animal. Possible. Alors, je ne connais pas les blasons par cœur, mais c'est tout à fait possible que, vu que c'est le peuple insulaire,
maritime, ouais.
Finalement, ça aurait du sens. Bon, c'est avec ces douces mélodies que nous allons conclure ce troisième épisode de notre saga sur Game of Thrones. Mais pas de panique, on revient la semaine prochaine pour un final en beauté. Et dans ce final, de quoi est-ce qu'on parlera d'après vous?
De la dernière saison. Parce qu'en fait, mine de rien, on en a un petit peu parlé vite fait comme ça, mais c'est vrai que ça a quand même été une saison très très controversée, et notamment un final très controversé.
Bien vu, c'est exactement ça. Dans le prochain épisode, on reviendra sur le final de la série et la polémique qu'il a provoquée chez les fans. Et puis on parlera plus largement de l'après Game of Thrones et ce à quoi il faut s'attendre maintenant. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce troisième épisode.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Game of Thrones. D'ici là, portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.